Chapitre 4. Le tirage. 1. Alors que l'arc inférieur du soleil touchait la mer occidentale, y déversant une coulée d'or en fusion jusqu'à cette extrême pointe de grève où Eddie gisait troussé comme une volaille, les agents O'Meara et Delavan reprenaient péniblement conscience dans ce monde d'où le jeune homme était issu.
« Vous pourriez me retirer ces menottes ?» demanda humblement Johnny Gradouble.
« Où est-il ? » demanda O'Meara, la voix batteuse, portant une main tâtonnante à son étui.
« Plus d'étui, ni ceinturon, ni revolver. Envolé le revolver.
Merde !»
Commencèrent à défiler dans sa tête les questions qu'allaient probablement lui poser les connards de l'inspection générale des services. Des mecs qui tiraient de Starsky et Hutch toute leur connaissance du travail de terrain. Et à ses yeux, la valeur monétaire de son pistolet perdu se fit tout d'un coup comparable en importance à la population de l'Irlande ou aux principaux gisements miniers du Pérou. Il se tourna vers Carl et constata que son coéquipier s'était également fait dépouiller de son arme.
« Oh, doux Jésus, pensa-t-il, peut-on imaginer une plus belle paire de crétins ?»
Et quand Gradouble réitéra sa prière, lui demandant s'il voulait bien mettre la clé sur le comptoir et le débarrasser de ses menottes, O'Meara lui répondit
« Je devrais plutôt... »
Puis s'arrêta parce qu'il était sur le point de dire « Je devrais plutôt te coller quelques pruneaux dans le bide » et que cela aurait été une menace qui, de toute façon, n'aurait pas été prise au sérieux. Le fonds de commerce des Clements était soi-disant imprenable. Et pourtant, le salopard aux lunettes cerclées d'or, d'autant plus salopard qu'il avait eu la touche d'un citoyen respectable, les avait, Carl et lui, délestés de leurs armes avec l'aisance de quelqu'un confisquant un pistolet à bouchon à un gamin. Donc, au lieu d'achever sa phrase, il prit la clé sur le comptoir et délivra Gradouble. Puis, remarquant le magnum dans le coin, où d'un coup de pied, Rolland l'avait expédié, il alla le ramasser et le glissa dans la ceinture de son pantalon.
« Hé là, c'est à moi ?»
glapit Gradouble.
« Ah bon ?
Tu tiens à le récupérer ?» Il détachait ses mots. Il était obligé, vu le mal de crâne qu'il se payait, pour le moment, il n'avait qu'une envie, retrouver M. Lunette Cerclé d'Or pour le clouer sur le premier mur venu, en choisissant des clous émoussés. Il paraît que ça plaît beaucoup, les nouveaux détenus dans ton genre du côté d'Attica. Ils ont un dicton là-bas. Plus le coussin est gros, plus c'est chouette de le pointer. Tu es vraiment sûr de vouloir ce flingue ?
Johnny Holden se détourna sans répondre, mais O'Meara eut le temps de voir les larmes qui lui montaient aux yeux, cependant qu'une tache de pisse toute fraîche apparaissait sur son pantalon. Mais sa pitié n'en fut nullement éveillée.
Où est-il ?
S'enquit derrière eux Delavan d'une voix qui se débrouillait pour être à la fois pâteuse et nasillarde.
Parti ! Fit Gradouble. J'en sais pas plus. J'ai bien cru qu'il allait me tuer.
Delavan se relevait. Il porta la main à sa joue, la sentit humide, regarda.
Du sang. Merde !
Puis il chercha son arme et continua à la chercher longtemps après que ses doigts lui eurent amplement confirmé son absence, comme celle de l'étui, de la ceinture et du reste. Quant à son état de santé, si O'Meara n'avait que la migraine, lui, Carl, aurait juré qu'on venait de se livrer dans sa tête à des essais nucléaires.
« Ce mec a piqué mon pistolet » fit-il dans une bouillie de voyelles à laquelle son collègue répondit dès qu'il en eut percé le sens. « Je sais. Bienvenue au club. Il est toujours là ?»
Delavan fut un pas vers O'Meara, tanguant sur la gauche comme s'il avait à compenser une gîte énorme sur le pont d'un bateau par gros temps. Puis il réussit à se redresser.
« Tu parles. » « Depuis combien de temps il est parti ?» demanda Delavan à Gradouble, dont il n'obtint aucune réponse.
L'autre leur tournait le dos et pouvait les avoir crus parlant toujours ensemble. Mais Delavan n'était pas connu pour son caractère facile, même dans les meilleures circonstances. Et même si le crâne devait lui voler en éclats, le type eut droit à sa gueulante.
« Je t'ai posé une question, gros lard. Il y a combien de temps qu'il s'est tiré ?»«
Peut-être 5 minutes, »
dit Gradouble, toujours sans entrain. Il a pris vos armes, puis ses cartouches.
Temps d'arrêt.
J'y croyais pas, mais il les a payées.
5 minutes, réfléchit Delavan. Ce type était arrivé en taxi. Il l'avait vu débarquer pendant qu'ils prenaient leur pause café dans la bagnole. Sauf que, maintenant, on approchait de l'heure de pointe, et trouver un taxi allait devenir rudement coton.
Ils avaient une chance. Allez, on y va. Mais il va nous falloir une arme.
Homie Harry lui montra le magnum. Il commença par en voir deux, puis fit la mise au point.
Bien. Ça revenait, mais pas d'un coup comme à la boxe quand la dégosse ramasse un méchant crochet dans le menton. Tu le gardes. Je prendrai le fusil sous le tableau de bord.
Il s'ébranla vers la porte et cette fois fit plus que tituber, bascula et dut se retenir au mur pour ne pas s'étaler.
Tu crois que ça ira ?
Le doute était perceptible dans la voix de O'Meara.
Parfaitement, si on le rattrape.
Ils sortirent. Leur départ ne soulagea pas Johnny autant que celui du tordu au costard bleu, mais presque. 2. Delavan et O'Meara n'eurent même pas à discuter de la direction prise par leur gibier en sortant de chez Clemens. La radio les renseigna sitôt qu'ils la branchèrent.
Code 19, répétait la fille sans apparemment s'enlacer. Code 19, vol à main armée, en cours, coup de feu tiré. Code 19, code 19, emplacement. 395, 49e rue Ouest, pharmacie Katz. Agresseur, grand, blond, roux, costume bleu.
Des coups de feu, retint Delavan entre les assauts plus violents que jamais de son mal de crâne.
Parti de quel pistolet?
Du mien ou de celui de George?
Des deux, qui sait? Si ce fumier a fait des morts, on est fichu. À moins de mettre la main dessus.
Démarre, dit-il à O'Meara, qui ne se le fit pas répéter, obsédé par les mêmes pensées que son collègue et souffrant moins que lui, donc plus lucide. Il enclencha sirène et gyrophare et se lança dans la circulation. Ça commençait à se compliquer avec la sortie des bureaux, et il roulait deux roues dans le caniveau, les deux autres sur le trottoir, suscitant des envols de piétons effarés. Côté chaussée, l'aile arrière d'un poids lourd garda le rude souvenir de leur passage. Ils avaient les yeux rivés sur les éclats de verre qui miroitaient là-bas devant et les oreilles déjà pleines des stridences de l'alarme. Les passants s'étaient tous abrités sur les pas de porte ou derrière les poubelles, mais dans les étages, on semblait s'être rué aux fenêtres comme s'il s'agissait d'une série télé disposant enfin d'un budget correct ou d'un film qu'on pouvait voir sans payer. Devant l'immeuble, la rue n'avait pas attendu d'être barrée pour se vider de toute circulation.
Espérons qu'il y ait encore, dit Delavan, et d'un tour de clé, il libéra les deux courtes barres d'acier qui bloquaient l'étrier du fusil à pompe sous le tableau de bord. « Ouais, espérons seulement que cette saloperie de putain de fumier n'a pas fichu le camp !» Ce qu'ils s'acharnaient tous deux à ne pas comprendre, c'était que, quand on se retrouvait confronté au pistolero, il valait souvent mieux lui foutre la paix.
3. Quand Roland était sorti du drugstore, le gros flacon de Keflex avait rejoint la moitié des munitions dans la poche de veste de Jack Mort, mais le 38 de Carl Delavan n'avait pas regagné son étui. Car c'était rudement bon de tenir de nouveau un pistolet dans une main droite à laquelle il ne manquait aucun doigt. Il entendit la sirène et vit la voiture qui se ruait sur lui.
Eux, pensa-t-il. Et il allait lever son arme quand il se rappela. C'était des pistoleros dans l'accomplissement de leur tâche. Il pivota sur ses talons et rentra dans la boutique de l'alchimiste.
« Pas plus loin, salopard !»
hurla Delavan. Les yeux du pistolero volèrent jusqu'au miroir convexe et s'y posèrent à l'instant où l'un de ses pairs en ce monde, celui qui avait saigné de l'oreille, se penchait avec un fusil à la fenêtre du véhicule que son coéquipier faisait piler net dans le crissement et la fumée des roues en caoutchouc freinant sur l'étrange et lisse pierre noire de la chaussée. Il le vit faire monter d'un coup de levier une cartouche dans la chambre de l'arme. Il se plaqua au sol.
4.
Katz n'eut pas besoin de miroir pour comprendre ce qui allait se passer. Au lieu d'un cinglé, 3. Un braqueur et 2 flics.
Oh, bye.
Baissez-vous,
cria-t-il à son assistant et à Ralph le vigile, en se laissant tomber sur les genoux derrière le comptoir, sans se soucier de vérifier si son conseil était suivi. Puis il sut que c'était du moins le cas pour le préparateur, puisqu'une fraction de seconde avant que Delavan ne tira, il reçut le jeune homme sur le dos et s'affaissa sous son poids. Il alla cogner du menton contre le carrelage et se fractura la mâchoire en deux points. La décharge de douleur qui lui jaillit dans le crâne ne noya pas complètement le coup de feu. Il l'entendit comme il entendit voler en éclats le restant de sa vitrine, ainsi que l'eau de Cologne, l'aftershave, le parfum, le sirop pour la toux, bref, tout ce qui était bouteille. Un millier d'odeurs contradictoires se mêlèrent, créant un véritable enfer olfactif, et avant de tourner de l'œil, Kat s'exhorta une dernière fois Dieu à faire pourrir son père dans l'éternité pour lui avoir à l'origine attaché au pied le boulet infect de cette pharmacie. 5. Roland vit les flacons et les boîtes voler en tous sens sous la gifle des plombs. La vitre d'un présentoir se désintégra. Les montres qu'il contenait furent projetées en arrière sous la forme d'un dense et scintillant nuage. Il n'avait aucun moyen de savoir s'il restait ou non des innocents dans la boutique, songea-t-il. Et ils se sont quand même servis d'une arme à tir dispersée. C'était impardonnable. Une bouffée de colère l'envahit qu'il réprima. C'était des pistoleros. Plutôt se dire que le choc entre leurs deux crânes en avait altéré le contenu que de les imaginer faisant sciemment ce qu'ils faisaient, sans nul souci de ce qu'ils risquaient de blesser ou de tuer. Ils s'attendaient à le voir fuir ou répondre à leurs tirs. Au lieu de cela, il se redressa et rampa vers eux à quatre pattes, se lacérant mains et genoux sur les bouts de verre. La douleur fit reprendre conscience à Jack Mort, ce dont Roland fut enchanté. Il allait avoir besoin de son hôte, et supportant aisément la cuisson des plaies que les tessons ouvraient dans les chairs, se fichait éperdument de leur gravité, les sachant infliger à un monstre qui les méritait 100 fois plutôt qu'une. Il atteignit le soubassement de ce qui ne ferait plus qu'une lointaine ressemblance avec une vitrine de verre blindé, et ce tapis derrière, juste à droite de la porte. Puis, il rengaina l'arme qu'il avait, jusqu'alors et par plaisir, gardée au poing. Il n'allait pas avoir à s'en servir. 6.
« Arrête de déconner, Karl !»
hurla O'Meara. Un gros titre du Daily News venait de s'inscrire brutalement dans sa tête. Bavure policière dans un drugstore du West Side, 4 morts. Delavan l'ignora totalement et pompa une cartouche neuve dans le fusil.
« Finissons-en avec cette ordure !»
7. Tout se passa conformément aux espoirs du pistolero. Furieux d'avoir été sans effort berné puis désarmé par un homme qui ne devait pas se distinguer à leurs yeux des autres moutons parqués dans les rues de cette ville apparemment infinie et toujours groggy du choc qu'ils avaient assommé, ils s'engouffrèrent dans la boutique avec en tête l'imbécile qui avait tiré à la grenaille. Ils couraient légèrement penchés en avant, tels des soldats chargeant une position ennemie. Mais c'était là leur seule concession à l'idée que leur adversaire fût toujours à l'intérieur. Ils le voyaient déjà en train de s'enfuir, par derrière. Ils traversèrent donc en trombe le trottoir, faisant crisser sous leurs pas le verre qui le jonchait, et quand le pistolero au fusil poussa la porte, à présent débarrassée de sa vitre, Roland se leva, les mains entrelacées en un point unique qu'il abattit sur la nuque de l'agent Karl Delavan. Lors de son témoignage devant la commission d'enquête, Delavan devait affirmer n'avoir aucun souvenir de tout ce qui avait suivi le moment où il s'était agenouillé dans l'établissement des frères Clemens et avait vu sous le comptoir le portefeuille du plaignant, lequel, plus tard, allait se révéler leur agresseur. Les membres de la commission devaient estimer que, vu les circonstances, pareille amnésie était sacrément pratique et Delavan allait avoir de la chance de s'en tirer avec 2 mois de suspension sans solde. Roland, lui, l'aurait cru, et dans d'autres circonstances, si l'imbécile ne s'était pas servi d'un fusil à forte dispersion dans une boutique pleine d'innocents, par exemple, aurait même compati. Quand on se reçoit 2 coups sur le crâne dans l'espace d'une demi-heure, on peut s'attendre à certains troubles cérébraux. Alors que Delavan s'effondrait, soudain aussi mou qu'un sac de flocons d'avoine,
Le pistolero lui arracha son fusil des mains.
Arrête ça !
Hurla Homie Array d'une voix où se mêlaient colère et consternation. Il était en train de lever le magnum de gras double, mais ainsi que Roland l'avait soupçonné, lentement, avec cette pitoyable lenteur des pistoleros de ce monde, il aurait eu pour le moins trois fois le temps de tirer sur Homie Array, mais n'en éprouvant nullement le besoin, se contenta d'abrimer au fusil un irrésistible arc ascendant. Il y eut comme un bruit de baiser, alors que la crosse entrait en collision avec la joue gauche de Murray, dont tout le bas du visage, de la joue jusqu'au menton, se déjeta de 5 centimètres sur la droite. Il allait falloir 3 opérations et 4 broches d'acier pour ramener et maintenir sa mâchoire en position normale. Un moment, il resta là, planté face au pistolero, rivant sur l'homme en costume de ville et ceinturon entrecroisé, un regard incrédule. Puis ses yeux ne montrèrent plus que leur blanc, ses genoux se ramollirent, et à son tour il s'effondra. Debout sur le seuil, indifférent à l'approche des sirènes, Roland ouvrit le fusil et en actionna le levier, éjectant les grosses cartouches rouges sur le corps inerte de Delavan. Après quoi, avec un égal mépris, l'arme alla rejoindre ses munitions. Tu es un fou dangereux qui aurait eu sa place à l'ouest, dit-il à l'homme inconscient. Tu as oublié le visage de ton père. Il enjamba le corps et s'achemina vers les véhicules des pistoleros qui ronronnaient toujours à l'arrêt. On ouvrit la porte et se glissa sur le fauteuil du passager, puis sur l'autre, derrière le gouvernail. 8. Est-ce que tu sais conduire ça ? Demanda-t-il au débordement de cris de charabia auquel s'était réduit Jack Mort. Mais il n'obtint aucune réponse cohérente, Mort ne démordant pas de ses stridences. Hystérie, reconnut-il avec un soupçon d'inauthenticité. Jack Mort piquait sa crise à dessein, moyen d'éviter toute conversation avec l'étrange ravisseur. « Écoute, lui dit le pistolero, je suis trop pressé pour répéter. Si tu ne réponds pas à ma question ou à l'une de celles qui vont suivre, je te colle un pouce dans l'œil droit. J'appuie tant que c'est possible, puis je te l'arrache du crâne. » Et je m'essuie le doigt sur la banquette. Je pense pouvoir me débrouiller avec ton seul œil gauche. Après tout, c'est pas comme si c'était le mien. Il était dans l'incapacité de mentir à Morte comme Morte dans celle de lui mentir. Telle était la nature de leur relation, glaciale et forcée pour tous deux, mais plus intime que n'aurait su l'être le plus passionné des rapports sexuels. Il s'agissait en fait non d'une réunion des corps, mais de l'ultime fusion de 2 esprits. Roland pensait ce qu'il disait, et Mort le comprit. Les cris cessèrent aussitôt. « Je sais conduire, » dit Mort, et ce furent les premiers mots sensés que Roland capta dans cette tête depuis qu'il y était entré. « Fais-le donc. » Où dois-je aller ? Connais-tu un endroit qui s'appelle le village ?
Oui.
Alors vas-y.
Où dans le village ?
Pour l'instant, occupe-toi seulement de m'y conduire.
On ira sans doute plus vite si je mets la sirène.
Parfait. Tu la mets, ainsi que ces phares qui tournent.
Pour la première fois depuis qu'il s'était emparé de cet homme, Roland se plaça légèrement en retrait, lui laissant partiellement les commandes. Quand la tête de son hôte se tourna pour inspecter le tableau de bord de la voiture blanc et bleu de Delavan et O'Meara, Roland regarda aussi, mais sans avoir pris l'initiative. Toutefois, physiquement présent plutôt que le cas désincarné, il n'eut pas manqué de se tenir sur la pointe des pieds, prêt à reprendre les choses en main au moindre signe de mutinerie. Vigilance inutile. Cet homme qui avait tué ou estropié Dieu savait combien d'innocents n'avaient nulle intention de perdre un de ses chers yeux. Il enfonça des boutons, tira sur un levier, et ils furent en mouvement. La sirène gémit et le pistolero vit des spasmes de lumière rouge éclabousser avec régularité l'avant du véhicule.
« Tâche de conduire vite !»
ordonna-t-il sèchement. 9. Nonobstant la sirène et les gyrophares, et bien que Jack Mort parût battre la mesure sur le klaxon, il leur fut impossible à cette heure de pointe d'atteindre Greenwich Village en moins de 20 minutes. Dans le monde du pistolero, les espoirs d'Eddie fondaient comme du beurre sur le feu. La mer avait déjà dévoré la moitié du soleil.
« Voilà, » dit Mort. « Nous y sommes. »
Et c'était la vérité, ne pouvait qu'être la vérité, même si Roland ne voyait rien qui évoquât un village dans cet étouffoir de bâtisses, de véhicules et de piétons. Et pour ce qui était des véhicules, ils ne faisaient pas qu'engorger la chaussée. L'air même était rempli de leurs clameurs incessantes et de leurs fumées nocives. Il supposait qu'elles provenaient de la combustion d'un carburant quelconque, et c'était un miracle que les gens y survivent, et que les femmes ne donnent pas naissance à des monstres tels que les lents mutants des montagnes de son pays.
« Bon, où allons-nous maintenant ?» demandait Mort.
Le plus dur attendait Roland. Il s'y prépara comme il pouvait, quoi qu'il arrivât. « Éteins la sirène et les lumières. Gare-toi le long du trottoir. » Mort obéit et s'immobilisa devant une borne d'incendie.
« Il y a un chemin de fer souterrain dans cette ville, » dit le pistolero. « Je veux que tu m'emmènes dans une gare où ces trains s'arrêtent pour laisser monter et descendre les voyageurs. »
« Laquelle ?» s'enquit Mort non sans panique. Il ne pouvait rien cacher à Roland, ni Roland rien lui cacher. Du moins, jamais très longtemps.
« Voilà quelques années, j'ignore combien, tu as poussé une jeune femme devant le train qui entrait dans l'une de ces gares. C'est dans cette gare que tu vas m'emmener. »
S'ensuivit une courte lutte acharnée. Le pistolero en sortit vainqueur, mais ce fut étonnamment difficile. À sa manière, Jack Mort était aussi double qu'Odetta. Certes pas schizophrène comme elle, puisqu'il était parfaitement au courant de ce qu'il faisait, mais gardant secrète cette part de lui qui était le pousseur, la tenant sous clé avec le même soin qu'un détourneur de fond cachant le tiroir où s'amasse peu à peu sa cagnotte.
« Tu m'y emmènes, salopard !» répéta le pistolero.
Le pouce droit de Jack Mort monta vers l'œil correspondant. Un centimètre au plus l'en séparait, lorsque le propriétaire de l'œil en question céda, affolé. La main droite de Mort retourna sur le levier près du volant, et ils roulèrent vers Christopher Street Station, où, 3 ans auparavant, une jeune femme nommée Odetta Holmes avait eu les jambes sectionnées par le fabuleux train A.
10. Allons voir ça d'un peu plus près, dit l'îlotier Andrew Staunton à son coéquipier Norris Weaver, alors que la voiture pie de Delevan et d'O'Meara s'immobilisait presque en face d'eux.
Sans se donner la peine de chercher un emplacement libre, le chauffeur se garait en double file, et derrière lui, la circulation se ralentissait encore pour contourner ce nouvel obstacle, tel un filet de sang s'acharnant à alimenter un cœur désespérément obstrué par le cholestérol. Weber vérifia le numéro peint sur le côté du phare avant droit, 774. Ouais, c'était bien celui qu'on leur avait donné au central. Hormis son stationnement gênant, infraction dont les gyrophares semblaient établir qu'elle était justifiée, le véhicule n'offrit rien d'anormal dans son apparence, du moins jusqu'à ce que sa portière se fût ouverte et que son chauffeur en fût sorti. Il était en bleu, d'accord, mais ni du bleu ni de la coupe que rehaussent ordinairement des boutons dorés et un badge argenté. Ses chaussures non plus n'avaient rien de réglementaire,
à moins que Stanton et Weaver n'eussent raté la note de service spécifiant que, dorénavant, Gucci devenait le fournisseur exclusif de la police new-yorkaise, ce qui était peu probable. Hautement probable, en revanche, que ce fût là le tordu qui avait attaqué deux flics au centre-ville. Indifférent au concert de protestation des klaxons et aux hurlements des automobilistes, l'homme abandonna son véhicule.
« Bon sang !» fit Andy Stanton entre ses dents.
« N'aborder qu'avec les plus extrêmes précautions, » avait dit la voix dans sa radio. « Suspect armé, extrêmement dangereux. » À les entendre, on avait presque toujours l'impression qu'il n'existait pas au monde d'êtres humains plus blasés que les filles du central, impression qu'avaient confirmé les rares contacts d'Andy Stanton avec ce corps féminin et son administration. Aussi, la répétition du mot « extrême » sous forme d'adjectif puis d'adverbe s'était accrochée dans son esprit comme un bouton de bardane. Pour la première fois en 4 ans de carrière, il sortit son arme de service. Un coup d'œil sur le côté lui avait appris que son coéquipier avait fait de même. Tous deux se tenaient sur le seuil d'une charcuterie fine à une dizaine de mètres de la bouche de métro. Ils se connaissaient depuis assez longtemps pour être parfaitement accordés l'un à l'autre comme seuls savent l'être les flics et les soldats de métier. Sans échanger un mot, ils reculèrent dans l'embrasure de la porte, le revolver à la verticale.
« Métro ?» demanda Weaver.
« Ouais. » Andy jeta un bref regard sur les escaliers un peu plus loin. Le rush battait son plein et la foule s'y enfonçait en un flot presque continu.
Il va falloir l'alpaguer tout de suite, avant qu'il n'en soit trop près. Allons-y.
Ils s'ébranlèrent, tandem impeccable dans lequel Rallant eut aussitôt reconnu des adversaires autrement sérieux que les deux premiers pistoleros. D'abord, ils étaient plus jeunes. Et puis, la voix qui les guidait l'avait étiqueté comme extrêmement dangereux, ce qui, aux yeux d'Andy Stanton et de Norris Weaver, faisait de lui l'équivalent d'un tigre affamé. S'il ne se fige pas à la seconde même où je lui dis de le faire, c'est un homme mort, pensa Andy.
Police ! On ne bouge plus !
Hurla-t-il en se laissant choir accroupi, l'arme tendue à bout de bras et bloquée entre ses paumes, position dont Weaver offrait le calque exact.
Mettez vos mains sur la...
Il en était là de son injonction quand le type piqua un sprint vers la bouche de métro et à une vitesse proprement prodigieuse. Mais Andy Stanton, en action, se découvrait tout d'un missile à tête chercheuse. Il pivota sur ses talons avec la sensation qu'un manteau de froideur sans émotion l'enveloppait. Sensation que Rallant aurait également reconnue pour s'être maintes fois trouvé dans une situation similaire. Andy prit une légère avance sur la silhouette en mouvement, puis pressa la détente de son 38. Il vit l'homme en costume bleu tournoyer en tentant de rester debout, puis il le vit s'écrouler à terre alors que les gens, ceux-là même qui quelques instants plus tôt ne s'occupaient que de survivre au trajet qui les ramenait chez eux, se mettaient à hurler et à s'égayer comme des cailles, soudain conscients de dangers d'une autre ampleur que celui de mourir étouffé dans une rame surchargée.
« Putain de merde, collègue !» fit Norris Weaver. « Tu l'as vraiment soufflé comme une bougie !»«
Je sais, » dit Andy d'une voix ferme qui aurait suscité l'admiration de Rallant.
Allons voir qui c'était.
11.
Je suis mort !
Braillait le pousseur.
Vous avez réussi à me faire tuer et je suis mort ! Je suis...
Non, répondit le pistolero. Par des yeux réduits à deux fentes, il regardait approcher les deux flics, le revolver toujours sorti. Ils étaient plus jeunes et plus rapides que ceux qui avaient monté la garde près du magasin d'armes. Plus rapides, à coup sûr. Et au moins l'un d'entre eux était un tireur d'élite. L'hôte de Rallant, et Rallant, par voie de conséquence, aurait dû être mort, mourant ou grièvement blessé. Andy Stanton avait tiré pour tuer, mais si sa balle s'était forée un chemin dans le revers de la veste, elle n'avait pas été plus loin que la poche de chemise. Les deux hommes qui se partageaient ce corps, l'apparent et le caché, avaient eu la vie sauve grâce au briquet de Jack Mort. Mort ne fumait pas, mais comme son patron, dont l'année prochaine à cette même date il avait bon espoir d'occuper la place, était un fumeur invétéré,
Mort avait consacré $200 à l'achat chez Dunhill d'un briquet d'argent. Il n'allumait pas toutes les cigarettes que M. Framingham se fourrait dans le bec quand ils étaient ensemble, ce qui l'aurait par trop fait ressembler à un vulgaire lèche-cul, mais seulement une de temps à autre, et en règle générale quand ils étaient en présence d'un de leurs supérieurs dans la compagnie, de quelqu'un susceptible d'apprécier, primo, la tranquille courtoisie de Jack Mort, secondo, le bon goût de Jack Mort. Les positifs mettaient toutes les chances de leur côté. En l'occurrence, mettre toutes les chances de son côté venait de sauver tant sa vie que celle de Roland. La balle jaillie du 38 de Staunton avait frappé le briquet d'argent au lieu du cœur de Mort. Il n'en était pas moins blessé, bien sûr. Se recevoir un pruneau de gros calibre exclut de s'en tirer indemne. Le briquet s'était trouvé assez profondément repoussé dans sa poitrine pour y créer un trou. Il s'était aplati, puis avait volé en éclats, creusant des ornières superficielles dans l'épiderme de Mort, l'un de ses projectiles ayant nettement tranché son téton gauche. Chauffée à blanc, la balle avait également embrasé la mèche imbibée d'essence. Le pistolero n'en conservait pas moins une immobilité parfaite alors qu'approchaient ses deux pères en ce monde. Celui qui n'avait pas tiré disait aux gens de reculer. « De rester à distance, putain de merde !»«
J'ai pris feu !»
hurla Mort.
« Je brûle ! Éteins ça ! Mais qu'est-ce que t'attends pour éteindre ?»
Roland restait couché sur le ventre, sans un geste, à l'écoute des crissements sous les pas des pistoleros, ne prêtant nulle attention aux cris de Mort, tâchant de faire de même à l'égard du feu qui couvait dans sa poitrine et de l'odeur de chair grillée qui se répandait. Il sentit un pied s'introduire sous sa cage thoracique et le soulever. Il se laissa mollement retourner sur le dos. Jack Mort avait les yeux ouverts, les traits flasques. En dépit de la cuisante douleur qu'infligeaient à son corps inerte les vestiges du briquet, rien ne trahissait qu'à l'intérieur, un homme hurlait, hystérique.
« Mon Dieu !» murmura un badaud. « C'est une balle traçante que vous lui avez tirée dessus, bec !»
Un mince filet de fumée montait du trou dans le revers de la veste de Mort. Plus diffuse était celle qui s'échappait de par-dessous le revers. L'odeur de barbecue s'accentua quand, dans le briquet broyé, la mèche prit vraiment feu. Puis, Andy Staunton, qui pouvait jusqu'alors s'enorgueillir d'un sans-faute, commit là son unique erreur. Une erreur pour laquelle Cort lui renvoyait chez lui l'oreille enflée en dépit de son admirable comportement, vu qu'il n'en fallait bien souvent pas plus, lui aurait-il dit, pour causer la mort d'un homme. Staunton avait été capable de tirer sur le type. Ce qu'aucun flic n'est réellement sûr de pouvoir faire avant d'être en situation de confrontation directe. Mais la pensée que sa balle avait mis le feu au type en question l'emplissait d'une horreur irraisonnée. Il se pencha donc imprudemment sur l'homme et le pied du pistolero s'écrasa dans son ventre avant que Staunton ait eu le temps d'observer les étincelles de vie consciente flamboyant encore dans ses yeux qui auraient dû être morts. Andy Staunton partit à la renverse, bousculant son équipier alors que le 38 lui échappait. Weaver ne s'en accrocha que plus fermement au sien, mais il était encore empêtré avec Staunton quand il entendit un coup de feu et constata que son arme avait disparu, comme par magie. La main qu'il avait tenue était aussi insensible que si elle avait reçu à pleine volée le marteau d'un forgeron. Le type en costard bleu se leva, les regarda un moment et dit
« Vous êtes bon, bien meilleur que les autres. Je vais donc vous donner un conseil. Ne vous avisez pas de me suivre. J'en ai presque terminé ici et ça m'embêterait d'avoir à vous tuer. »
Puis il leur tourna le dos et s'engouffra dans le métro. 12. L'escalier était encombré de gens qui avaient inversé leur trajectoire descendante quand cris et coups de feu avaient déchiré l'ordinaire brouhaha. Tous, irrésistiblement, ils étaient retournés vers la surface, animés par ce morbide et spécifique désir new-yorkais de contempler des flaques de sang souillant l'asphalte de leur cité. Toutefois, ils trouvaient le moyen de reculer devant l'homme en costume bleu qui dévalait les marches à contre-courant. Cela n'avait rien d'étonnant. Il tenait un revolver à la main
et en avait un autre sur la hanche. Et il était en feu. 13. Roland restait indifférent aux cris de douleur de morte dont la veste, la chemise et le t-shirt brûlaient maintenant à flammes plus vives, tandis que le briquet commençait à fondre et que d'ardentes gouttes d'argent roulaient jusqu'à son ventre. Des remous d'air vicié venaient frapper ses narines. Le grondement d'une rame approchante lui emplissait les oreilles. C'était presque l'heure, celle de tirer la troisième carte, ou les perdre toutes. Encore une fois, il eut l'impression de sentir les mondes trembler et chanceler autour de lui. Déboulant sur le quai, il jeta le 38, défit la ceinture du pantalon de morte et le baissa, révélant un caleçon blanc qui tenait de la culotte sexy. Il n'avait pas le temps de s'attarder sur cette bizarrerie. Ralentirait-il le mouvement que la perspective d'être transformé en torche vivante ne cesserait de l'inquiéter? Les boîtes de munitions qu'il avait achetées allaient bientôt être portées à une température telle qu'elles exploseraient, et lui avec. Il les transféra dans le caleçon où le flacon de Caflex les rejoignit. Les dessous de filles offraient à présent plus d'une bosse grotesque. Ensuite, il se débarrassa de la veste en flammes, mais ne se préoccupa nullement d'ôter une chemise pourtant tout aussi dangereuse. Il entendit le train rugir dans le tunnel, envoyait déjà la clarté. Bien que n'ayant aucun moyen de savoir que c'était une rame empruntant cette même ligne qui était passée sur Odette, il le savait quand même. En ce qui concernait la tour, le destin pouvait se révéler miséricordieux comme ce briquet qui lui avait sauvé la vie, et cruel aussi comme le brasier qu'un tel miracle avait allumé. Il suivait, à l'instar du train dont les roues se ruaient vers lui sur les rails, une trajectoire à la fois logique et d'une brutalité inouïe, course contre laquelle acier et douleur seuls pouvaient se poser en obstacle. Il remonta le pantalon de morte et se remit à courir, à peine conscient que la foule s'éparpillait sur son passage. Dans le courant d'air qu'il alimentait, le feu gagna son col de chemise, puis ses cheveux. La boîte de balles dans le sous-vêtement de morte lui battait les couilles, les broyait. D'atroces élancements lui percèrent les entrailles. Il enjamba le tourniquet, homme qui se muait en météore.
« Éteins-moi !» hurlait morte. « Éteins-moi avant que je sois brûlé vif !»«
C'est ce qui devrait se passer !» lui répondit le pistolet roux, glacial. « Mais tu vas connaître un sort autrement plus doux que celui que tu mérites. »
« Qu'est-ce que tu veux dire? Quel sort ?»
Roland s'abstint d'en dire plus, rompit en fait tout contact avec son hôte alors qu'il redoublait de vitesse vers le bord du quai. Une des boîtes tenta de s'échapper de la ridicule petite culotte de morte et il se plaqua la main sur les parties pour la retenir. Toute sa puissance mentale se concentra sur la dame. Il ignorait si un tel ordre télépathique avait des chances d'être entendu, et si c'était le cas, quelle contrainte il pourrait exercer sur sa destinataire. Mais il décocha quand même un trait de pensée vif et acéré.
« La porte. Regarde par la porte. Là, tout de suite !»
Le vacarme du train envahit le monde. Une femme hurla.
« Mon Dieu, il va sauter !»
Une main s'abattit sur son épaule et tenta de le retenir. Puis, Roland poussa le corps de Jack Mort par-delà la ligne jaune et par-dessus le bord du quai. Il tomba devant la masse de métal qui fonçait sur lui, tomba les deux mains dans l'entrejambe, retenant le bagage qu'il avait à rapporter, qu'il rapporterait à la condition d'être assez rapide pour sortir de Mort au tout dernier instant. Et alors qu'il tombait, il l'appela, les appela de nouveau.
« Odette Holmes, Odette Walker !» « Regardez! C'est maintenant qu'il faut regarder !»
Tout son être était tendu dans cet appel quand la rame fut sur lui, impitoyable. Il tourna la tête, regarda par la porte. Et il vit le visage de la dame. Les visages. Il voyait simultanément les deux visages.
« Non !»
hurla morte. Et dans l'ultime dernière fraction de seconde avant que le train ne lui passât dessus, ne le sectionna non au-dessus des genoux mais au niveau de la taille, Roland s'élança vers la porte et la franchit. Jack Mort mourut seul.
Munitions et pilules se matérialisèrent près du corps physique du pistolero et ses mains se tendirent vers elle, convulsives, les saisirent, puis les relâchèrent. Il s'astreignit à se lever, conscient de revêtir à présent sa dépouille souffrante et palpitante, conscient des hurlements d'Edidine et de ce que la dame hurlait aussi, mais avec deux voix différentes. Il posa sur elle un bref regard qui confirma ce qu'il venait d'entendre. Il n'y avait plus une femme, mais deux, pareillement infirmes, dotées du même teint sombre et d'une égale beauté. Il n'en restait pas moins que l'une d'elles était une horrible sorcière, la laideur de son âme non point dissimulée, mais rehaussée par l'extrême grâce de ses traits. Rallant contempla ses jumelles, qui, en fait, n'en étaient pas, qui n'avaient d'autre lien que d'être les images positives et négatives d'une même femme. Il riva sur elle un regard fiévreux, hypnotique. Puis Eddie poussa un nouveau cri, et le pistolero vit Léo Marstruosité s'extraire des vagues pour se traîner vers l'endroit où Detta avait abandonné le jeune homme troussé comme une volaille et sans défense. 14. Detta se vit par l'ouverture entre les mondes, se vit par ses propres yeux, se vit par ceux du pistolero, et son sentiment de dislocation fut aussi soudain que celui éprouvé par Eddie, mais en beaucoup plus violent. Elle était ici. Elle était là-bas, dans les yeux du pistolero. Elle entendait se ruer la rame de métro.
« Odetta !»
cria-t-elle, comprenant tout soudain, ce qu'elle était et quand c'était arrivé.
« Detta !»
cria-t-elle, comprenant tout soudain, ce qu'elle était et qui en était responsable. Suivit la fugitive sensation d'être retournée comme un gant, puis une autre, mille fois plus torturante. Celle de se déchirer. 15. Rallant descendit par embarder la courte pente vers l'endroit où gisait Eddie. Ses mouvements étaient ceux d'un homme qui aurait perdu ses os. Un des monstrueux crustacés tendit une pince menaçante vers Eddie qui hurla. D'un coup de botte, le pistolero repoussa l'animal, puis se pencha et saisit le jeune homme par les bras. Il commença de le tirer en arrière, mais c'était un peu tard et il était trop faible. Ils allaient avoir Eddie. Ouais, ils allaient même les avoir tous les deux. Eddie cria encore quand l'une des horribles créatures lui demanda « Est-ce que chic ?» avant d'arracher un lambeau de son jean et un morceau de chair du même coup. Il voulut réitérer ce cri, mais rien ne sortit de sa gorge, sinon un gargouillis étranglé. Le nœud coulant de Detta faisait son office. Les monstres resserraient à présent leur demi-cercle dans un horrible cliquetis de pinces. Le pistolero investit ses ultimes vestiges d'énergie dans une dernière traction qui le fit basculer à la renverse. Il les entendit s'approcher, poser leurs maudites questions, ouvrir et fermer leurs pinces. « Ce n'était peut-être pas si mal », songea Rallant. Il avait joué son va-tout, et c'était là tout ce qu'il avait perdu. Le tonnerre de ses propres armes l'emplit d'un émerveillement ébahi. 16. Les deux femmes gisaient face à face, le torse redressé comme des serpents prêts à mordre, les doigts porteurs des mêmes empreintes nouées autour de leur gorge aux plis identiques.
Cette femme essayait de la tuer, mais elle n'avait pas plus de réalité que n'en avait eu la petite fille de jadis. Elle n'était qu'un rêve né d'avoir reçu cette brique sur la tête. Et voilà que ce rêve s'accrochait pourtant à sa gorge et tentait de la tuer pendant que le pistolero s'efforçait de sauver son ami. Le rêve fait réalité hurlait des obscénités en lui couvrant le visage de chaude salive.
Oui, j'ai volé le plat bleu parce que cette femme m'avait laissé toute seule à l'hôpital, et puis parce que je n'avais jamais rien eu à moi qui soit classe. Et je l'ai cassé parce que j'avais besoin de le faire. Et quand je voyais un garçon blanc, je faisais pareil parce que j'en avais besoin. Oui, je faisais du mal aux garçons blancs parce qu'il fallait qu'ils aient mal, et je vole dans des magasins qui ne vendent que des choses classe pour les blancs, pendant que nos frères et nos sœurs crèvent de faim à Harlem et que les rats bouffent leurs bébés. C'est moi, salope, c'est moi la seule, moi qui... Moi, moi !»
Tu l'as, se dit Odetta. Et elle s'en savait incapable. Elle ne pouvait pas plus tuer la sorcière et survivre que la sorcière ne pouvait la tuer et s'en tirer à si bon compte. Elles allaient s'entretuer pendant qu'Eddie et ce Roland, vraiment méchant, lui qui les avait tirés de leur monde, se faisait dévorer vivant un peu plus bas sur la grève. Ils allaient tous mourir. Ou alors, elle pouvait... Amour, haine, lâcher.
Odetta lâcha la gorge de Detta, indifférente aux mains qui serraient la sienne, aux pouces qui lui coupaient la respiration. Au lieu de tendre les bras pour s'accrocher au cou de l'autre, elle les ouvrit pour l'enlacer.
Non !
Hurla Detta, mais dans un cri d'une infinie complexité, où se mêlaient horreur et gratitude.
Fous-moi la paix, salope ! Tu me fous la paix, et c'est...
Odetta n'avait plus de voix pour lui répondre. Alors que Roland repoussait d'un coup de pied le premier assaillant et qu'une autre monstruosité réussissait à se tailler un beefsteak dans la cuisse d'Eddie, elle ne put que chuchoter à l'oreille de la harpie. « Je t'aime. » Un moment, les doigts continuèrent de serrer, puis ils se relâchèrent. Disparut. De nouveau, la sensation d'être retourné comme un gant. Puis soudain, merveilleuse, celle d'être entière. Pour la première fois depuis qu'un nommé Jack Mort avait laissé tomber une brique sur la tête d'une fillette qui n'était là pour la recevoir que parce qu'un chauffeur de taxi blanc s'était empressé de redémarrer après un bref regard sur eux, et que son père, dans son orgueil, avait refusé d'en appeler un autre par peur d'essuyer un second refus, elle se sentait former un tout. Elle était Odetta Holmes. Mais alors, l'autre...
« Magne-toi, salope !»
lui gueula Detta. À ceci près que c'était toujours sa voix. Elle et Detta avaient fusionné. Elle avait été une, elle avait été deux. Le pistolero venait d'extraire d'elle une troisième.
« Magne-toi, ils vont se retrouver dans le ventre de ces bestioles !»
Elle regardait les boîtes de cartouches. Trop tard. Le temps de recharger les revolvers, ce serait déjà fini. Il ne lui restait que l'espoir. Mais reste-t-il jamais autre chose ? Se demanda-t-elle. Et elle dégaina. Et le tonnerre emplit soudain ses mains brunes. 17. Eddie vit surgir au-dessus de lui une monstruosité, des yeux comme des billes dépolies qui n'en brillaient pas moins d'une vie hideuse, des pinces qui s'abaissaient vers son visage.
« Oh, ce que !»
commença la créature, puis elle partit en arrière, explosion de matière plus ou moins solide. Roland, lui, en vit une sur sa gauche.
« Je peux dire adieu à mon autre main, »
pensait-il. Quand il ne resta plus de l'horreur qu'une masse indistincte de vertes entrailles et de fragments de carapace. Il se retourna et vit une femme d'une beauté à couper le souffle, dans une rage à vous glacer les sangs.
« Allez-y, bande d'enculés !»
hurlait-elle.
« Approchez ! Essayez de les bouffer ! Que je vous fasse sauter la tronche, que vous en ayez les yeux qui ressortent par le trou du cul !»
Une troisième balle repoussa la monstruosité qui était remontée entre les jambes écartées d'Eddie, s'apprêtant à faire coup double, se nourrir et le châtrer.
L'intelligence rudimentaire que Roland avait soupçonnée chez ces créatures était à présent manifeste. Elle fuyait. Si le percuteur d'un des revolvers finit par tomber sur une balle défectueuse, le coup suivant réduisit une quatrième horreur en bouillie. Les autres n'en battirent que plus vite en retraite vers la mer. Elles semblaient avoir perdu tout appétit. Entre-temps, Eddie s'étranglait. Roland luttait avec la corde profondément sertie dans le cou du jeune homme, mais voyait son visage virer peu à peu du violet au noir, entendant faiblir les petits cris. Puis ses mains furent écartées par d'autres, plus vigoureuses. « Je m'en occupe. » Il y avait un couteau dans l'une de ses mains. Son couteau.
« Tu t'occupes de quoi ?» pensa-t-il avant de perdre conscience. « Que comptes-tu faire maintenant que nous sommes tous deux à ta merci ?»« Qui es-tu ?»
réussit-il à chuchoter alors que déjà l'enveloppait des ténèbres plus noires que la nuit. « Je suis trois femmes, » l'entendit-il répondre. Et c'était comme si elle lui parlait du fond de la margelle d'un puits dans lequel il tombait. « Celle que j'étais, celle qui existait en moi sans en avoir le droit, et celle que tu as sauvée. Merci, pistolero. » Elle l'embrassa sur les lèvres. Il en eut encore conscience, mais dans le long temps qui suivit, n'eut plus conscience de rien.